Vous écoutez, on lit pour vous.
Des étudiants en médecine contactés par le privé dès leurs premières années d'études. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 5 décembre 2024 dans Le Devoir. Des cliniques privées contactent en ligne des étudiants en médecine, dont certains dès leurs toutes premières années d'études, afin de faire connaissance avec eux ou de les inviter à visiter leurs locaux. Des pratiques qui suscitent des craintes chez certaines associations en raison du nombre important de médecins qui quittent présentement le régime public. Pour devenir médecin de famille au Québec, il faut effectuer un minimum de 6 à 7 ans de formation. Pour être médecin spécialiste, il faut compter un minimum de 8 à 11 ans. L'aspirant médecin Maxence Pelletier-Lebrun, qui est présentement à l'Université de Sherbrooke, n'en était qu'à sa deuxième année d'études en 2023, lorsque des représentants du secteur privé ont souhaité établir un contact avec lui via LinkedIn, un réseau social professionnel. Une poignée de responsables du recrutement ou propriétaires de cliniques privées ont envoyé des invitations de connexion à M. Pelletier-Lebrun par l'entremise de cette plateforme. Parmi les demandes, il a notamment reçu un message d'Avenue Médic, une clinique médicale privée à Belœil. « Au plaisir de faire connaissance », lui a écrit le président directeur général de l'endroit, Pierre-Luc Morissette. L'étudiant, qui en est maintenant à sa troisième année de médecine, estime que le secteur privé n'est pas un acteur neutre dans ce système. Il fait des efforts actifs pour recruter, ajoute celui qui est aussi vice-président de la Fédération médicale étudiante du Québec, FMEQ, une association qui représente près de 5000 étudiants en médecine. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a d'ailleurs déposé un projet de loi pour obliger les nouveaux médecins fraîchement diplômés dans la province à effectuer leurs 5 premières années de pratique dans le système public. Alors qu'encore trop de Québécois attendent d'être pris en charge, trop de médecins décident, dès le début de leur carrière, de quitter le réseau public québécois, avait expliqué plus tôt cet automne l'élu caquiste. Pas un cas isolé. Le cas de Maxence Pelletier-Lebrun n'est pas isolé. Au printemps 2023, Mathilde Lavoie venait tout juste de terminer sa troisième année de médecine à l'Université Laval. C'est à ce moment, raconte-t-elle, qu'elle a reçu une invitation sur LinkedIn pour assister à un 5 à 7 du groupe médical Lacroix, qui gère le plus grand réseau de cliniques entièrement privées au Québec. Le but est de vous faire visiter l'ensemble de notre clinique, de discuter de nos conditions de travail et des nouveaux projets de clinique à venir, peut-on lire dans un message destiné à Mme Lavoie, qui en est désormais à sa cinquième année d'études. Celle qui est également présidente de la FMEQ affirme ne pas avoir donné suite à l'invitation. « Pourquoi nous envoie-t-on des invitations aussitôt ?» soulève de son côté Maxence Pelletier-Lebrun. « Certainement parce que ça marche. J'ai d'ailleurs l'impression que dans quelques années, quand je vais finir ma résidence, ces messages et ces invitations vont être réactivés. » Ces pratiques inquiètent les médecins québécois pour le régime public. Le fait de voir de futurs médecins se faire courtiser dès l'entrée en médecine, c'est d'accepter ce genre de médecine à deux vitesses dès le départ. Et ça, on le rejette fortement, affirme le docteur Xavier Gauvreau, vice-président du regroupement. De son côté, Mathilde Lavoie se dit préoccupée par ce phénomène, étant donné que les impressions qu'ont les étudiants tôt dans leur parcours vont souvent demeurer pour le reste de leur cheminement. En raison des besoins actuels du réseau, la FMEQ souhaite plutôt que ses membres vivent des expériences positives, notamment avec la médecine familiale publique, dès les débuts de leur parcours universitaire. Démystifier le secteur privé. Joint par Le Devoir, le docteur Marc Lacroix et Alexandre Lemieux, respectivement président et vice-président du groupe médical Lacroix, soutiennent par écrit que les étudiants en médecine passent la majorité de leur parcours universitaire en contact avec le réseau public, sans réelle opportunité de démystifier le secteur privé et de se faire leur propre idée. En les contactant, nous leur donnons l'opportunité de découvrir une alternative qui leur permet de choisir librement leur futur milieu de pratique. Ils restent entièrement libres de cette décision, mais il est important qu'ils soient informés de cette option. De plus, personne n'est tenu d'accepter une demande sur LinkedIn, écrivent-ils. Ces approches auprès d'étudiants en médecine ne sont pas faites de façon systématique, précise-t-il. Elles reposent sur différents facteurs, comme leur région de provenance, ajoute-t-il, en précisant que le recrutement de finissants demeure marginal. De son côté, le PDG d'Avenue Médic, Pierre-Luc Morissette, explique prendre contact avec des étudiants de médecine dans le but de se faire connaître, lui et son entreprise. « Je ne fais pas de prospection auprès de tous les étudiants, les externes ou les résidents en médecine. J'y vais parfois selon des références que des gens m'ont données », précise-t-il. De la place pour le privé. Monsieur Morissette soutient qu'il ne contacte pas de médecins pour les inciter à quitter le réseau afin de venir travailler au privé. « C'est une forme d'influence que je ne prône pas. » Il y a un système de santé publique qui est en place et c'est parfait. Mais actuellement, je pense qu'il y a une place pour le privé. Le PDG d'Avenue Médic ajoute que la décision de travailler dans le réseau ou dans le secteur privé revient aux professionnels de la santé. Mon objectif principal, c'est d'offrir un service de qualité à la population qui a des besoins. Certains ont de la difficulté à pouvoir voir un professionnel de la santé au public, fait-il valoir. De leur côté, le président et le vice-président du groupe médical Lacroix soulignent que leur mission est d'offrir une alternative complémentaire au système public qui répond à un besoin pour les patients et les professionnels de la santé. Sans notre présence, bon nombre de médecins n'exerceraient pas au Québec, auraient pris leur retraite ou fait une pause dans leur carrière, affirme-t-il. C'était des étudiants en médecine contactés par le privé dès leurs premières années d'études, un texte de Florence Morin-Martel paru le 5 décembre 2024 dans Le Devoir.
L'asthme affecte le cerveau des enfants. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse. Des études tendent à le démontrer. L'asthme influence le fonctionnement du cerveau. Une nouvelle recherche conclut que chez les enfants, ce trouble respiratoire affecte la mémoire et les capacités cognitives. Elle s'ajoute à plusieurs rapports qui montrent que l'asthme augmente notablement le risque de démence chez les personnes âgées. Mémoire et Alzheimer. Simona Ghetti est psychologue spécialiste du développement de la mémoire chez l'enfant à l'Université de Californie à Davis, UCD. En 2020, elle a été surprise de consulter une étude selon laquelle les enfants asthmatiques présentaient des altérations dans l'hippocampe, une région du cerveau cruciale pour solliciter la mémoire. Ça s'ajoutait à des études associant l'asthme à des problèmes de mémoire chez l'adulte, explique Mme Ghetti en entrevue. Nous avons décidé de voir si on pouvait observer un effet concret chez les enfants. Pour en avoir le cœur net, Mme Ghetti et ses collègues ont analysé 2 ans de suivi de 2000 enfants américains de 9 et 10 ans. Les résultats sont clairs. Ceux qui, au départ, étaient asthmatiques avaient une moins bonne mémoire. Mme Ghetti et ses collègues ont aussi noté de moins bons résultats du côté de la rapidité de pensée, de l'inhibition nécessaire pour garder sa concentration à l'école et de l'attention. Selon Nicholas Christopher Hayes, co-auteur de l'étude publiée début novembre 2024 dans la revue universitaire JAMA Network Open, l'enfance est une période où la mémoire, et plus généralement la cognition, s'améliore rapidement. Chez les enfants asthmatiques, cette amélioration semble être plus lente. Ces résultats frappants ne sont pas isolés. À l'Université du Wisconsin, à Madison, une équipe multidisciplinaire étudie depuis une demi-douzaine d'années les liens entre la démence et l'asthme. En août dernier, dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology, ils ont montré que l'asthme augmente de 20 % à 30 % le risque d'avoir un diagnostic d'Alzheimer au fil d'un suivi de 2 ans. C'est une augmentation astronomique du risque d'Alzheimer aux yeux de Christy Bartels, rhumatologue et responsable de l'étude publiée dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology. Inflammation. Comment l'asthme influence-t-il le cerveau? Probablement à cause de l'inflammation, selon Melissa Rosenkranz de l'Université du Wisconsin à Madison, la psychologue qui a lancé les recherches sur l'asthme et la démence. On sait que plusieurs maladies inflammatoires, comme l'arthrite rhumatoïde, augmentent le risque de démence, rappelle le docteur Rosenkranz. Ce sont des maladies qui apparaissent dans la quarantaine, la cinquantaine, mais l'asthme commence dès l'enfance. J'ai réalisé que s'il y avait une plus longue exposition du cerveau à l'inflammation ailleurs dans le corps, il y avait potentiellement un impact cognitif plus grand. Cette inflammation pourrait affecter le cerveau de plusieurs manières, selon les 4 chercheurs interviewés. L'oxygénation du cerveau, l'inflammation du cerveau, des altérations vasculaires cérébrales et une croissance généralement plus lente du cerveau. Du point de vue vasculaire, l'inflammation pourrait endommager la barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau des infections, avance la docteure Rosenkranz. La docteure Bartels note que d'autres maladies inflammatoires, comme le lupus, sont associées à un développement cognitif plus lent. Elle en conclut qu'il se peut aussi que ce soit simplement un impact général de l'inflammation. Quand on a le rhume, on se sent parfois dans le brouillard. C'est difficile de se concentrer. La même chose survient peut-être avec l'asthme mal contrôlé. Crise. Une autre explication possible du lien entre asthme et cognition est l'impact de certains médicaments actuellement utilisés pour traiter les crises. Dans une autre étude qui n'est pas encore publiée, nous voyons qu'il y a plus de risques de démence chez les asthmatiques qui font davantage de crises, indique la docteure Rosenkranz. Les corticostéroïdes, des anti-inflammatoires, sont entre autres utilisés dans les urgences des hôpitaux. Ils ont divers effets négatifs sur le corps, notamment sur les vaisseaux sanguins, précise la docteure Bartels. Les enfants qui font souvent des crises d'asthme en font peut-être aussi de petites la nuit sans s'en rendre compte, ou alors sont réveillés par une plus grosse. Quand on manque de sommeil de manière chronique, on apprend plus difficilement, souligne la docteure Bartels. Le sommeil est important pour consolider la mémoire. Hyperactivité. L'asthme pourrait aussi être lié aux troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Des études ont montré que l'asthme joue un rôle dans le risque 2 fois plus grand de TDAH chez les pauvres que chez les riches, notent les 2 psychologues de UCD. Nous n'avons pas étudié la question, mais il faudrait vérifier si les symptômes de l'asthme augmentent le risque de TDAH, disent-ils. L'un des mécanismes qui pourrait rendre le TDAH plus fréquent chez les asthmatiques est l'anxiété, qui aggrave les symptômes du TDAH. Les enfants qui ont peur d'avoir une crise d'asthme sont anxieux et moins attentifs en classe, signale le docteur Bartels. Ils portent aussi peut-être moins attention aux interactions avec les autres élèves. Pour cette raison, les chercheuses du Wisconsin veulent tester des psychothérapies visant à réduire l'anxiété des enfants dont l'asthme est mal contrôlé. On essaie l'approche « pleine conscience »,« mindfulness », précise la docteure Bartels. Médicaments biologiques et école. Les chercheuses du Wisconsin sont optimistes pour l'avenir, à cause de l'amélioration des traitements de l'asthme. Il y a maintenant des médicaments biologiques qui rendent plus facile la gestion de l'asthme sévère et diminuent la fréquence des crises, souligne la docteure Bartels. Et il y a beaucoup d'efforts dans les écoles américaines pour aider les élèves qui font souvent des crises d'asthme. Des infirmières suivent des formations spéciales et on commence à laisser les enseignants accéder au dossier médical électronique des élèves pour voir les notes sur leur asthme. Ces médicaments biologiques sont très chers. Ils coûtent parfois des dizaines de milliers de dollars. Apparus il y a une quinzaine d'années, ils sont utilisés par seulement 1% des patients au Canada, mais pourraient être utiles pour 5% des asthmatiques, selon une récente étude britannique parue dans la revue universitaire Lancet Respiratory Medicine. En savoir plus. Source : Agence de santé publique du Canada. 6,5% proportion des Canadiens avec un diagnostic d'asthme en 2000. 10% proportion des Canadiens avec un diagnostic d'asthme en 2020. Plus 1,4% risque d'asthme chez les hommes par rapport aux femmes. Source : European Respiratory Journal. 4% à 5% proportion des Canadiens asthmatiques qui n'ont pas de diagnostic. C'était « L'asthme affecte le cerveau des enfants », un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 décembre 2024 dans La Presse.
Comment se protéger d'une potentielle fraude téléphonique? Un texte d'Éric Martel, paru le 3 septembre 2024 dans La Presse. Un simple « oui » au téléphone peut-il vous exposer à une fraude? Comment mieux se protéger? Et que faire si on pense être la cible de malfaiteurs? Voici les réponses d'experts à plusieurs questions soulevées par nos lecteurs. Vaut-il mieux éviter de répondre oui allô au téléphone et privilégier une autre formule? Même si des citoyens ont rapporté au Centre antifraude du Canada avoir été potentiellement fraudés par l'enregistrement d'un « oui allô », l'existence de cette pratique reste à prouver. Il n'y a donc malheureusement aucune réponse claire. Ça demeure folklorique, mais le potentiel est là, estime l'expert québécois en cybersécurité, Steve Waterhouse. Votre « oui » pourrait être enregistré et réutilisé pour accepter un contrat dans un système interactif de téléphonie ou de banque. Des fraudeurs pourraient utiliser des automates d'appel, donc des systèmes aptes à effectuer des appels automatiquement pour joindre les citoyens. Ces automates fonctionnent généralement en anglais. L'utilisation d'une phrase comme « Comment puis-je vous aider ?» est moins reconnue par un système qui opère en anglais, explique M. Waterhouse. Le mot « oui » pourrait être reconnu, donc il vaut mieux ne pas l'utiliser. Le spécialiste des cybermenaces chez Proofpoint, Alexis Doré-Jonca, ne partage pas son avis. Un simple mot n'est pas nécessaire pour effectuer une fraude. Un fraudeur pourrait peut-être utiliser un enregistrement, mais seulement s'il a accès à certaines informations personnelles importantes de sa cible. Entre un « oui allô » et un « bonjour », il n'y a pas de différence. Est-ce que les fraudeurs peuvent enregistrer mon message sur ma boîte vocale et l'utiliser pour faire de la reconnaissance vocale? Aucune campagne de fraude impliquant l'enregistrement de voix sur une boîte vocale n'est connue, assure M. Waterhouse. D'ailleurs, le service de police de la ville de Montréal, SPVM, ne détient aucune preuve concrète de l'existence d'une fraude reliée à l'enregistrement vocal. Conseiller en matière de fraude chez GeoComply, Simon Marchand croit que cette technique n'est tout simplement pas utilisée par les fraudeurs, notamment en raison de sa complexité. Une voix synthétisée ne pourra pas fonctionner avec le système de biométrie vocale d'une banque, considère-t-il. La stratégie du faux représentant est bien plus facile à faire pour les fraudeurs. De toute façon, si ce n'est pas votre boîte vocale, ce pourrait être une vidéo qui se trouve de vous sur YouTube ou quelque part sur votre page Facebook. La réalité en 2024, c'est qu'on peut difficilement faire l'inventaire d'où se trouve sa voix, ajoute M. Waterhouse. Est-ce qu'un fraudeur pourrait accéder à certains de mes comptes seulement en répliquant ma voix et sans avoir accès à mes informations personnelles? Certaines institutions financières et entreprises de téléphonie n'utilisent que la reconnaissance vocale pour identifier leurs clients, indique M. Waterhouse, si bien qu'il serait possible pour un fraudeur d'y arriver. Techniquement, si l'identification n'est que vocale, les malfaisants pourraient apprendre par cœur les questions posées par les systèmes automatiques et préparer des réponses en conséquence pour passer tous les modules de sécurité, explique M. Waterhouse. Dans la mesure où un fraudeur serait capable de copier l'empreinte vocale d'un client et de la faire reconnaître comme légitime auprès de la banque, il y aurait une attaque possible, corrobore M. Doré-Jonca. Mais ce qui est certain dans ce cas, c'est qu'elle aurait besoin de plus qu'un simple « oui » pour vous identifier. Je n'ai pas d'afficheur sur mon téléphone. Que devrais-je faire lorsque je reçois un appel? Posséder un afficheur n'est pas un gage de sécurité, puisqu'il est facile pour un individu malveillant de présenter un faux numéro et de se faire passer pour une institution financière ou l'un de vos fournisseurs. Le mot d'ordre, c'est la vigilance. L'idéal, c'est d'attendre 5 à 7 secondes avant de parler. Si vous avez affaire à un appel automatisé, l'automate raccrochera en ne constatant aucune interaction, note M. Waterhouse. La fraude la plus répandue demeure celle du faux représentant où l'appelant se fait passer, par exemple, pour un employé d'une institution financière. À partir de ce moment-là, où ils réussissent à établir un contact, c'est là qu'ils vont mettre de la pression, générer de l'anxiété. C'est ça qui est la clé, en fait. Ce sentiment d'anxiété-là, c'est ce qui permet aux fraudeurs de fonctionner, explique le conseiller en matière de fraude, Simon Marchand. En cas de doute, raccrochez et rappelez le numéro officiel de votre banque et de votre fournisseur pour vous assurer de la véracité de l'appel que vous venez de recevoir. J'ai répondu « oui, allô » au téléphone, puis j'ai donné mon nom avant qu'on ne raccroche au bout du fil. Que dois-je faire? Dois-je contacter ma banque? Ou la police? Première étape, respirer. Imaginez tous les gens à la télévision qui donnent des entrevues. Je suis pas mal certain qu'on serait capable d'avoir certaines de leurs informations personnelles, d'utiliser leur voix et, à ce que je sache, ces gens ne se font pas plus frauder que les autres, rappelle M. Doré-Jonca. La prudence demeure de mise, puisqu'il existe une possibilité que l'on vous ait appelé pour obtenir certains de vos renseignements personnels. Peut-être que des fraudeurs ont essayé d'obtenir de vos informations et rappelleront pour compléter votre profil. Il faut garder ça en tête en recevant des appels, des courriels et des textos subséquents, indique M. Waterhouse. Si vous avez donné des renseignements personnels à un inconnu, contactez immédiatement votre banque. C'était « Comment se protéger d'une potentielle fraude téléphonique », un texte d'Éric Martel, paru le 3 septembre 2024 dans la presse.
Le CJE Manicouagan ouvre un service d'hébergement d'urgence. Un texte de Carianne Nepton-Philippe paru le 20 novembre 2024 dans Le Manic. Le Carrefour Jeunesse, CJE Manicouagan, annonce l'ouverture de son service d'hébergement d'urgence permanent entre deux portes. Celui-ci est situé au deuxième étage de ses locaux sur la rue de Puy-Jalon. Citation. C'est une fierté d'offrir ce service d'hébergement d'urgence à toute notre communauté. Ce projet est une réponse directe aux défis auxquels sont confrontés les jeunes et moins jeunes en situation de vulnérabilité. Fin de citation, déclare la directrice générale du CJE Manicouagan, Mireille Lalancette. Citation. Notre objectif est de les soutenir à toutes les étapes de leur parcours, du toit temporaire à la réinsertion sociale et professionnelle, si c'est le cas. Fin de citation, poursuit-elle. Un besoin urgent et une réponse locale. Les enjeux et les difficultés liées à la précarité des jeunes adultes sont croissants, rapporte le CJE Manicouagan. Avec la hausse constante du nombre de personnes sans domicile fixe ou en situation de grande vulnérabilité, le service sera disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le service offrira un filet de sécurité en fournissant un abri et un environnement sécuritaire à toutes les personnes qui en ont besoin. Mireille Lalancette précise que le CJE Manicouagan a pour but de travailler en complémentarité avec les organismes du milieu. Citation. Toute l'équipe du CJE, plus particulièrement celle du travail de rue, sera mobilisée pour offrir un ensemble de mesures d'accompagnement visant à rétablir leur stabilité et leur offrir un parcours d'insertion sociale et professionnelle durable. Le but est de leur offrir un toit temporaire, les services et par la suite les diriger vers les bonnes ressources. Fin de citation, indique-t-elle. Citation. L'ouverture du service d'hébergement d'urgence permanent entre deux portes témoigne de l'engagement profond des CJE à répondre aux besoins. Ce projet exemplaire incarne notre mission collective, offrir des solutions concrètes et humaines pour soutenir les jeunes adultes dans leur quête de stabilité et d'autonomie. Fin de citation, souligne le directeur général adjoint du réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec, Sébastien Godette. Halte chaleur. Les statistiques de fréquentation de la halte chaleur, mises sur pied l'hiver dernier par le CJE et divers partenaires, parlent d'eux-mêmes. L'organisation indique que ce sont 75 % des lits qui étaient occupés tous les jours pendant 78 jours, ce qui a permis au CJE de constater que la création d'une ressource à long terme était nécessaire. C'était « Le CJE Manicouagan ouvre un service d'hébergement d'urgence ». Un texte de Carianne Nepton-Philippe